Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminé et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode des Bruits de ma ville. Comme vous le savez, le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Donc, pour le mois de mars, nous aurons plusieurs femmes qui passeront au micro de cette émission. Pour commencer, je suis contente d'avoir Rachel Zembimana avec moi aujourd'hui. Rachel est de Rachel Sweet Inspiration, une femme qui porte plusieurs chapeaux. Bienvenue, Rachel!
Allô, comment ça va?
Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de se lancer dans le projet et puis d'en parler, parle-nous un peu de ton parcours.
Oh là là, mon parcours. Bon, moi, je suis d'origine du Burundi. On est venu au Canada en 1995, en septembre plus exactement. Et... je suis venue quand je venais juste d'avoir 16 ans. On vient d'un pays de guerre, mais avant la guerre, je suis dans une famille de 6 enfants. Donc, on a grandi avec papa, maman et les enfants. Je suis la cinquième, donc je suis vraiment quelqu'un que tu n'entendras pas souvent parce que mes frères et sœurs, ils prennent toute la place, disons. C'est d'un bon côté, mais donc la plupart du temps, on n'entendait pas trop Rachel. Donc là, on est venu avec les circonstances au pays. On est venu au Canada pour recommencer tout à zéro dans un pays qu'on ne connaissait pas trop. On l'avait quand même étudié là, au secondaire là-bas. On connaissait la toundra, mais on ne savait pas c'était quoi l'hiver vraiment. Donc là, on est venu vraiment comme recommencer tout à zéro avec mes sœurs. Mes parents sont restés là-bas. Donc il fallait recommencer tout à zéro l'école, le travail, la langue aussi. L'anglais n'était pas, c'était comme la troisième langue au pays, mais qui n'était jamais pratiquée. Donc, lorsqu'on est venu ici, dans la nouvelle culture, il y avait beaucoup, beaucoup d'ajustements. Donc, on a grandi. C'était vraiment ça, mon parcours en général. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre les lignes, mais je pense qu'on va développer ça avec le temps.
C'est ça. Bon, quel a été on va dire, les défis de grandir au Canada? Parce que tu es quand même venu à 16 ans, donc tu continuais à grandir. Sauf venant d'un autre pays, tu viens au Canada, toutes sortes de gens. En tant que femme de couleur, on va dire, quels ont été les défis? Et en tant que jeune aussi?
Je dirais les premiers défis qu'on a rencontrés, c'était la langue. On était beaucoup plus francophone qu'anglophone. Et on est arrivé à Ottawa, qui est quand même une ville assez bilingue. Mais il fallait quand même être assez confortable avec l'anglais. Donc, je dirais que l'anglais, je l'ai appris dans la rue. Je l'ai appris à travers les films, à travers les chants, parce que j'aime beaucoup la musique. Et puis, le deuxième défi, ça a été la vie de tous les jours. Parce qu'en étant dans une famille où tout est vraiment offert sur la table, où tu n'as pas besoin de faire beaucoup, beaucoup de ménage à la maison, pas du tout la cuisine, on ne faisait pas la cuisine chez nous. Donc, tout était vraiment, venez à table, venez manger, tout était déjà prêt. Donc, apprendre à zéro, comment d'abord faire l'épicerie, comment gérer l'argent. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qu'il fallait apprendre, par beaucoup d'erreurs aussi. Là. Donc, c'est sûr qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais c'est à travers les erreurs qu'on apprend. Donc, je dirais que ça a été vraiment ça. Question d'être une femme de couleur, je pense que ça a été, étant dans une ville très diversifiée, Ottawa, donc on n'a pas trop senti la couleur. L'école où on allait, il y avait beaucoup, beaucoup là, de couleurs. La ville aussi était très diversifiée. Donc, ça a beaucoup aidé la transition parce qu'on n'était pas les seuls dans la ville. On n'était pas les seuls dans le quartier non plus, ni à l'école. Donc, on blindait vraiment facilement, comme je dirais.
Oui. OK. Comme tu dis, on n'était pas les seuls. Est-ce que tu as trouvé d'autres gens de ta communauté où tu étais? Est-ce qu'il y avait d'autres Burundais comme toi à l'école, ou on va dire, je sais, des fois, il y a des associations. Est-ce que tu as pu trouver des gens de ton pays?
Oui, je dirais que ça a été comme un soulagement parce que lorsqu'on est venu au Canada, parce qu'il y avait aussi beaucoup de guerre, la guerre chez nous, il y a eu quand même un gros mouvement de migration de Burundais très jeunes. La plupart ont quitté sans les parents. Donc, on s'est retrouvé quand même avec beaucoup, beaucoup de jeunes Burundais qui étaient comme à Montréal, à Toronto, puis à Ottawa. Donc, c'est sûr que lorsque vous vous retrouvez dans un pays étranger, que vous parlez la même langue, vous venez la plupart de la même ville, ça aide aussi la transition, là. Donc, ça a facilité beaucoup la transition et l'intégration, je dirais.
OK. Oh, wow. Ça, c'est une bonne chose parce que je pense que la plupart du temps, les gens se cherchent un peu aussi, se cherchent entre eux pour pouvoir, comme je dis toujours, avoir un petit quelque chose du pays, quoi.
Oui.
Oui.
Ah oui. Même la nourriture du pays, hein, ça te manque, hein, surtout qu'il y avait personne qui avait les parents. Donc, lorsque tu trouvais une famille qui connaissait comment cuisiner les repas qui étaient délicieux du pays, là, c'était comme un gros plus.
C'est un gros plus. OK. Puis, je voulais savoir, avec le temps, comment as-tu rencontré Christ? Est-ce que tes parents étaient déjà chrétiens ou c'est au travers des amis?
Ah, je dirais, écoute, on vient d'une ville très catholique. La majorité était très catholique. On avait une grosse cathédrale, hein, la seule et l'unique cathédrale. Il y avait d'autres petites cathédrales, mais celle-là était comme la principale où tout le monde a eu leur baptême, toutes les cérémonies, la deuxième année, la sixième année, là. Donc, on a grandi en ça, le processus du christianisme. Mais c'est ma sœur, il y a eu comme un réveil dans les années 90, 90, 91, 92, là, il y a eu un réveil qui est venu dans la ville. Et ça a vraiment pris beaucoup plus des jeunes que les parents. Donc, les jeunes ont commencé à y aller, il y avait comme la bonne musique. Donc, c'est sûr que les jeunes étaient beaucoup plus attirés par la musique. Mais avec tout le processus, là, il restait parce que l'environnement était tellement plein de Saint-Esprit, là. Puis, c'est ma sœur qui a commencé à y aller, ma grande sœur, celle-là, comme la quatrième. On a 3 ans de différence. Elle a commencé à y aller avec ses amis. Puis, lorsqu'elle venait à la maison, tu voyais un changement, elle en parlait, c'était comme naturel. Et puis, ça se passait tous les samedi après-midi. Donc, tous les samedis après-midi, il y avait comme un gros mouvement de jeunes dans la ville là, qui allaient dans cette église-là. Et puis, c'était vraiment intriguant. À un moment donné, je suis partie, puis c'est bon, la bonne musique, des bons témoignages, puis tu vois des jeunes que tu connais, des jeunes de ton âge, ce n'étaient pas des parents. Il n'y a aucun parent qui y allait, ils ont commencé à y aller après, là. Mais il y a eu comme ce mouvement-là de jeunes, et puis c'est à partir de là vraiment que mon cœur a été accroché. Et c'était vraiment une relation. Il n'y a personne qui m'a forcé, il n'y a personne qui a mis la Bible sur la tête ou qui a fait des condamnations, mais c'était vraiment la conviction personnelle, cet amour-là qui est tellement pur et simple en même temps, qui m'a ramenée. Et aussitôt que j'étais accrochée, là, je suis devenue. Il y avait plus de point de retour vraiment après cette saison-là. Donc, lorsqu'on allait à la maison, on parlait du Seigneur, puis c'est sûr qu'avec les parents, c'était pas. Disons que la chrétienté, le mouvement n'était pas très bien étiqueté. C'était beaucoup plus pour les gens qui n'étaient pas éduqués ou bien les jeunes qui voulaient lâcher l'école. Donc, ça a été mal interprété et puis il y avait quand même un défi dans ce niveau-là. Mais je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'avais quoi? J'avais 14 ans. Puis ça, c'est là vraiment que le feu a commencé. Est-ce que ça a toujours resté comme ça? Non, pas du tout. Surtout avec la transition qu'on est venu au Canada, qui n'était pas évident. Mais la base a été plantée là. Quand j'avais 14 ans, le jour même, c'était en février, là, 1993, c'était là que la base a été plantée. Et ce qui a suivi, c'était vraiment des hauts et des bas éventuellement. Mais la base était là.
La base était là. Est-ce qu'une fois que tu es arrivée ici, est-ce que tu as pu trouver une église ou même d'autres chrétiens avec qui, on va dire, marcher ensemble? Ou une fois arrivée ici, il y avait tellement de défis que, je ne sais pas, c'est comme un peu, ça a pris, on va dire, ça a pris le placard.
Est-ce que ça a pris le placard? Je pense que ça a été mis à côté progressivement, mais en même temps, il y avait toujours, je pense qu'avec tous les défis qu'on avait en tant que nouveau arrivant, mm-hmm. il y avait non seulement la langue, non seulement le manque de soutien, de support parental comme tel, où tu dois vraiment apprendre à tout. Lorsqu'on est arrivé, ma sœur a découvert une église qui était pas loin de l'université. Ça s'appelait à l'époque Downtown Church. Donc, ils ont commencé à aller là-bas avec ses amis, puis on y allait aussi. C'était très bien, vraiment, là, c'était très bien, on s'impliquait. Mais je pense que le fait qu'il y avait ce manque avec toutes les transitions qui se passaient, je devenais une adolescente et tout ça. Donc, c'est sûr que ça a été... Il y a eu un manque d'encadrement de savoir, OK, comment gérer Jésus ou me faire gérer par Jésus dans cette transition-là. Vraiment. Parce que il y avait comme ce manque de connexion entre la vie de tous les jours et aller à l'église et comment impliquer vraiment ou bien appliquer ma vie, ma marche avec Jésus dans ça.
Wow, d'accord. Et puis, il y a eu, on va dire, les années ont passé et tu es devenue une jeune maman. Donc, c'est ça. Quels ont été les défis de cela?
Oh là là! Bon, d'abord, moi, dans cette transition-là de gérer comme ma vie chrétienne, puis en même temps, ma vie en dehors de l'Église, le fait qu'il manquait vraiment cette balance-là de savoir, parce qu'en même temps, j'avais des amis qui étaient chrétiens, des amis qui étaient non chrétiens, donc j'étais toujours au milieu, puis à un moment donné, quand j'avais vers 19-20 ans, je suis tombée enceinte. Et puis, lorsque je suis tombée enceinte, je dirais que ça a été comme un frein, pas un frein, le frein à main, là, même si tu mets l'accélérateur, tu peux pas avancer. C'est vraiment ça. Et puis, je pense que j'avais besoin de ça. Rachel avait besoin de ça parce qu'à un moment donné, je sentais cette friction entre ma marche avec Jésus, puis dans la marche dans le monde. Et puis, je savais qu'il devait y avoir quelque chose, là, pour mettre ce frein à main. Lorsque j'ai eu ma cocotte, pour moi, c'était une grande bénédiction parce que j'avais pas d'autre option que de creuser ma relation avec Jésus. Donc, c'est sûr que ça a été non seulement le défi du Canada et la vie de tous les jours, mais maintenant, j'étais une jeune maman. J'avais pas encore fini l'école. J'étais pas mariée. Donc, il fallait gérer non seulement les choses de tous les jours, continuer à aller à l'école, puis gérer aussi être une maman qui n'avait pas trop d'expérience. Toutes mes amies, là, il n'y avait personne qui avait d'enfants. Donc, j'étais pratiquement, je pense, la première ou la deuxième. J'en connais une autre là, qui a eu le bébé en même temps que moi, mais on a grandi, il n'y avait pas trop de support. Donc, il fallait qu'on apprenne à devenir maman dans un entourage où tout le monde était encore jeune et universitaire et qui travaillait. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça a ramené un autre niveau là, de défi à être une maman.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas encore, dans ce temps-là, des programmes pour les jeunes mamans? Parce que je vois que maintenant, il y a des programmes, il y a des choses sur Internet et tout. Donc, il n'y avait pas de programme
dans ce temps-là. Ah, des programmes. D'abord, l'Internet, à l'époque, on avait encore comme Hotmail, là, MSN, du genre vrai, comme le chat. Mais ça venait juste de venir à l'époque. Quand on avait encore les gros téléphones, l'Internet, il fallait que tu aies ton ordi d'abord à la maison, qui n'était pas évident. Donc, la plupart des choses, c'était vraiment d'aller, si tu voulais avoir accès, c'était soit de la télé ou bien aller à la bibliothèque pour faire des recherches. Est-ce qu'il y avait des programmes? Il n'y avait pas autant de programmes, on n'était pas du tout au courant de ces programmes-là. C'est sûr que j'habitais dans un endroit où la plupart, justement, c'était des jeunes mamans, mais il fallait quand même, parce qu'il fallait que je continue d'étudier, puis en même temps, il fallait que je travaille, mais le fait que ton entourage d'avant n'était pas du tout exposé à ce que tu vivais maintenant, et que tu n'avais même pas le temps vraiment de faire des recherches. Vraiment, tu n'avais même pas le temps de faire des recherches parce que la routine était vraiment très stricte. Mm-hmm. Qu'aller chercher de l'aide pour savoir, bon, tu faisais des erreurs, disons, pour apprendre.
Pour apprendre, c'est ça. Et puis, quels ont été les changements de vie que tu as dû faire à partir de cela? Et avais-tu des doutes sur l'avenir, on va dire, comment, regardant à long terme?
Oh, Lord! Je me souviens que durant cette transition, lorsque chez Noah, ma grande, là, lorsqu'elle était toute petite, là, à la garderie, je me souviens, à un moment donné, j'écoutais beaucoup les T.D. Jakes. À l'époque, c'était vraiment... Il fallait que tu te connectes là, sur la télé. Il fallait avoir certaines chaînes de télévision pour regarder ces affaires-là. Puis j'avais pris... À l'époque, c'était BET. C'était les seuls là, qui montraient T.D. Jakes, qui montraient Creflo Dollar, comme you name it. Tous ces gens-là, je les regardais le matin. Et puis, c'était très tôt le matin. 5 heures du matin, je pense. Donc, j'avais ça, cette soif-là de... Je savais que là où j'étais n'était pas le point final de ma vie. Et je savais que Dieu n'avait pas fini avec moi. Je m'étais connectée avec une église, Life Center, qui était sur Innes Road, parce que j'habitais dans Blackburn Hamlet. Et puis, ils avaient des programmes, et puis ça m'a vraiment aidée à structurer ma vie spirituelle. Donc, c'est sûr que j'ai dû faire beaucoup de changements sur les amis que j'avais, les fréquentations que j'avais. Ben, la plupart, disons, ça a été coupé automatiquement parce qu'on n'avait plus les mêmes intérêts. On n'avait plus les mêmes objectifs. Et on se voyait des fois dans les anniversaires, des choses pareilles, mais les activités, les week-ends, etc., il n'y avait plus de connexion comme telle. Donc, les week-ends, vraiment, étaient vraiment concentrés pour aller à l'église les dimanches. Et c'est là vraiment que chez Noah, ma grande, elle a grandi. Elle a grandi vraiment dans l'église, dans cet environnement-là. Et sachant qu'éventuellement, c'était juste comme un parcours, là. Je savais qu'il n'allait pas avoir comme des résultats maintenant et il fallait que je commence à investir vraiment dans le futur. Et je me souviens, quand tu parles de changement, je me souviens des fois où je n'avais pas de travail, donc j'allais le déposer à la garderie, puis je revenais à la maison et je commençais à prier. Je faisais beaucoup, beaucoup de déclarations. Beaucoup! Tu parles de Madeleine, là, Madeleine Lajoie. On faisait beaucoup de déclarations. Mais moi, j'étais seule dans le petit, dans un petit salon. Moi, la musique, et je faisais beaucoup de déclarations. Il n'y avait pas de fruits, je ne voyais pas de fruits comme tel, mais je faisais beaucoup, beaucoup de déclarations dans le futur. Je projetais tout ça dans le futur, éventuellement. Mais c'était vraiment du jour au jour, je te dirais. Vraiment du jour au jour, parce que chaque jour avait un défi. Mais en même temps, le temps passait, puis on voyait quand même ses fruits petit à petit venir.
Amen. Donc, Dieu était toujours là. Donc, en voyant vraiment ton témoignage, Dieu était toujours là. Donc, là maintenant, on sait tous que tu es une femme mariée. Donc, comment la rencontre avec ton mari a changé ta vie? Bon, je sais que vous avez t'as des petites anecdotes. Donc, voici.
Oh, comment ça a été? Oh, je dirais, dans toutes ces déclarations, tu te souviens comme quand j'étais dans le petit salon, je faisais des déclarations dans le vide. Dans ma tête, c'est dans le vide, mais comme j'avais la foi, là, ça allait s'arriver. Mais à un moment donné, je me souviens en 2005, j'avais connu beaucoup de hauts et de bas. Il y avait des relations qui venaient, puis ça aboutissait à rien. J'allais à l'école, puis je lâchais l'école. Je commençais le travail, puis en même temps, je laissais le travail. Donc, il y avait comme, je commençais quelque chose, puis ça finissait, ça donnait jamais des fruits. C'est en 2005, j'ai regardé Jésus dans les yeux, j'ai dit, écoute là, moi et toi, tu me connais, je te connais peut-être un petit peu, mais tu me connais. Mais je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Mes amis, ils me voient et ils savent que je te sers ou bien que je vais à l'église parce que je dis non à certaines choses. Mais lorsqu'ils me regardent, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit dans ma vie et puis je suis fatiguée. Il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai été radicale, je me souviens. Parce qu'à un moment donné, mes parents m'ont dit, écoute, Rachel, est-ce que tu aimerais qu'on prenne chez Noah pour une année pour que tu te concentres? Depuis qu'elle est née, là, elle m'avait demandé ça. J'avais toujours dit non, 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 non. Mais rendue en 2005, j'ai dit OK, on va rester pour une année. Il y a la paix au Burundi. Elle sera bien encadrée, les grands-parents. On va essayer ça. So, lorsque je l'ai ramenée au Burundi, que je l'ai laissée au Burundi, je suis revenue dans mon petit appartement et que l'appartement était vide. Il n'y avait pas de chinois dedans. Il n'y avait pas d'habits, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de dessin animé. C'est là vraiment que je suis venue face à face. J'ai dit, écoute, je ne peux pas faire autant un grand sacrifice comme ça pour que tu ne viennes pas faire comme quelque chose de flagrant qui est palpable. Alors, j'ai dit, écoute, Jésus, je vais commencer un jeûne. Et il y a certaines choses, notamment le travail, notamment les études, que je n'avais pas encore fini. Ça faisait presque 8 ans, là. J'avais commencé l'université, mais avec les hauts et les bas, ça ne finissait pas. Mes relations, j'ai dit, écoute, il faut qu'il vienne, là. Je sais qu'il est quelque part, mais il faut qu'il vienne. Donc, je vais commencer un jeûne et je ne sais pas quand est-ce qu'il va finir. Quand il va finir, là, c'est toi seul qui le fais. Si jamais je meurs, c'est ton problème. Donc là, j'ai commencé à jeûne. J'étais encore une fois connectée avec une église. J'étais toujours avec Life Center. Il y a une autre église qui était en besoin, une église burundaise. Donc, j'ai été aussi les aider, étant donné que je n'avais pas chinois. Donc, j'allais le matin, les dimanches matin dans une église, puis l'après-midi, j'allais dans l'autre. Donc, j'étais vraiment comme moi et Jésus dans l'environnement. Et c'était un jeûne qui était très intentionnel. À chaque jour, j'allais réclamer mes choses. Ça, c'était comme en janvier 2005. Là. Donc là, quand je faisais mes prières, ça brassait de l'autre côté, là, de l'océan, en Angleterre. Moi, je ne le savais pas. Ça brassait très fort. Ça avait même commencé à brasser avant que je commence mon jeûne. Et Pasteur Denis, de son côté, il avait vu une photo de moi parce que je faisais la poésie que je mettais sur le site de son frère. Il avait été sur le site de son frère. Il a vu une belle photo d'une belle madame. À l'époque, j'étais une blonde avec des cheveux qui étaient très, très ras. Et puis, il a dit, c'est qui celle-là? Puis, on l'a dit, mais c'est Poupina. Tout le monde connaît le nom Poupina, là. C'est le nom de ma jeunesse. En tout cas, il a dit, c'est Poupina. Donc là, elle a dit, ah ouais. Donc là, elle était quand même intriguée. On lui a parlé un petit peu de moi et puis on se connaissait depuis l'école primaire. C'est là qu'on se connaissait, mais on n'a jamais parlé comme ça, tu vois, comme dans une grosse école, on connaît telle et telle et telle, mais ça ne veut pas dire que c'est tes amis. Ça. Donc c'est là que, à partir de là, elle a commencé à faire des recherches sur moi. Moi, je ne savais pas, là, j'étais très connectée dans le Seigneur. Je continue à prier. Puis, quelques mois plus tard, il m'a appelée. Et puis, il m'a appelée disant qu'il voulait m'inviter. Parce que lui, il était un pasteur en Europe. Okay. Donc, là, il voulait m'inviter pour que j'aille, comme j'aille là-bas, pour prêcher ou bien partager mon témoignage. Mais comme je ne pouvais pas, là, j'avais recommencé le travail. Puis, c'est là qu'on a commencé les conversations. Okay. Il m'appelait. Mm-hmm. Et puis, je répondais. Et puis, disons, après 2-3 appels qui viennent d'un pasteur, c'est sûr que tu te demandes, là, un pasteur qui est célibataire. C'est là que j'ai commencé à dire, OK. Est-ce qu'il y avait-il quelque chose? Et puis, ça, il a été quand même assez direct.
Direct.
Mm-hmm. J'étais pas très habituée à avoir quelqu'un qui est aussi direct, mais ça montrait qu'il savait ce qu'il voulait. J'ai dit, OK, on va commencer à y aller mollo-mollo parce que je ne suis pas trop habituée. Puis c'est là vraiment qu'avec le temps, on a commencé à se connaître à distance au téléphone. Il prenait les petites cartes, je prenais les petites cartes. Il n'y avait pas de WhatsApp à l'époque. Oui. Il y avait des courriels, on s'écrivait des petits mots. Puis c'est là vraiment ça a connecté éventuellement, je dirais la même année, qu'on s'est connus, c'est la même année qu'on s'est rencontrés physiquement parce qu'il est venu voir son frère Jean-Claude à Montréal. Yeah, okay. On s'est rencontrés en mai, la même année, là. Donc là, on a commencé à se parler en février au téléphone. En mai, on s'est vus. Et puis, il m'a proposé en mai de là. Et puis, en décembre, on s'est mariés. Donc, tout se passait là dans moins de 12 mois. Mmh.
Dieu a accéléré les choses, comme j'aime dire aux gens. Accéléré et Dieu a localisé. Donc, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser. Des fois, je dis, Seigneur, va localiser. Parce que parfois, nous, en tant que chrétiens, on dirait qu'on a peur. Il faut demander à Dieu, Seigneur, va localiser ce travail que j'ai besoin. Va localiser. Je ne sais pas, des fois, il y a des parents qui cherchent une garderie. Seigneur, va localiser la garderie. Va localiser. Le mari ou la femme dont j'ai besoin. Donc, il faut vraiment, il y a des mots qu'il faut utiliser pour aller chercher ce qui est pour nous.
Oui, oui. Et puis, il est capable, hein, parce que lorsque je réfléchis comment il a pu parler au cœur de Pasteur Denis, là où il était, pour qu'il ait assez de courage de tout laisser derrière, parce que c'est lui qui a déménagé. Il a délégué son église là-bas en Angleterre à quelqu'un d'autre. Il a fermé la porte là à l'Angleterre pour venir recommencer à zéro dans un pays inconnu, parce que Dieu a fait quelque chose. Vraiment, là, ça prend la main de Dieu pour faire une telle grosse décision. Donc, c'est comme ça, tu es là.
C'est comme ça. Donc, après ça, au fur du temps, la famille s'est agrandie. Donc, comment est-ce que tu as pu jongler tout ça? Avant, tu avais juste chinois. Avec le temps, il y en a eu d'autres, donc.
Ah oui. Non, il y a eu une bénédiction exponentielle, disons, dans la famille, là, parce qu'à chaque... On s'est mariés en 2006. On a commencé à avoir des bébés, d'autres bébés à partir de 2009. Ah, j'avais fini l'école, j'avais eu mon travail. C'est à partir de 2009, là, à chaque 2 ans, il y avait un bébé. Donc, disons, l'autre année, j'étais enceinte, puis l'autre année, j'avais un bébé. Puis l'autre année, j'étais enceinte, puis l'autre année, j'avais un bébé. Donc, ça a été comme du rock and roll. À la fin de la journée, on est rendu quoi? À 5. Donc, c'est sûr, comment on a pu gérer ça? Comme vraiment, ça a été au début avec Israël, qui est né en 2009. C'est sûr, j'avais un bon travail. Donc, j'étais en congé de maternité. Donc, on pouvait continuer avec l'église. Il avait comme une belle équipe, là. Donc, j'avais pas besoin de faire beaucoup de choses non plus. Donc, j'étais principalement à la maison avec les enfants. Puis, à un moment donné, lorsque... j'étais rendue à 3 avec ma 4e grossesse. J'ai dû quand même prendre une pause. Là, j'ai dit, écoute, on va se concentrer à la maison parce que je ne peux pas faire le travail à temps plein. Puis, il y avait aussi l'église, puis il y a aussi la famille. Donc, j'ai pris quand même une grosse pause de presque 6 ans où je suis restée à la maison avec les enfants. Donc, on a fait un petit peu de l'école à la maison avec les 3 derniers. Donc, ça a été ça, ma façon vraiment de gérer ça. C'est sûr que Dieu, dans tout ça, là, il faut absolument qu'il reste la base. Parce que malgré les livres que tu vas lire, malgré les choses que tu vas regarder, malgré les sermons que tu vas écouter, si tu n'as pas cette base-là qui te retient solidement là, à terre, tu ne peux pas appliquer la même formule qui a marché pour telle, puis l'amener chez toi. C'est sûr que tu peux la modifier dépendamment de ce que Dieu fait, mais en même temps, Dieu veut faire quelque chose de différent dans chaque famille parce que chacun a sa façon d'être très unique. Et c'est lui seul qui sait comment est-ce que tu vas gérer ton mari dans cette saison, comment est-ce que tu vas gérer tel enfant dans cette saison, parce que dans tout ça, il y a Chinois qui est devenue une grande fille, adolescente, tout ça. Donc, il fallait savoir comment gérer une adolescente, comment gérer tous ces petits garçons qui sont en train de naître avec tellement d'énergie. Donc, il fallait vraiment personnaliser ta façon de gérer chaque personne, mais en même temps, ne pas t'oublier. Ouh là là! En même temps, ne pas t'oublier parce que c'est tellement facile que tu ailles en dessous du tapis parce que tu es en train de regarder tout le monde et puis à un moment donné, tu te perds. Donc, c'est sûr, c'était un processus aussi pour moi là, de retrouver Rachel et je suis toujours dans le processus de retrouver Rachel parce que ça prend du temps. Ça prend vraiment, vraiment du temps. Mais Mais c'est toujours bien, comme chaque saison, vraiment, de prendre le temps de reconnaître la bénédiction dans cette saison-là, de prendre le temps d'investir une qualité intentionnelle, pas nécessairement, peut-être la façon que tu cherchais le Seigneur quand tu étais juste avec, comme célibataire, puis maintenant avec Chenoa, la façon que je cherchais le Seigneur, ça ne peut pas être toujours la même chose, parce que j'ai plus autant de temps, autant d'énergie. Donc, tu apprends à ajuster ta façon de chercher le Seigneur, et il est toujours là. Il est toujours là, même si tu es en train de faire la lessive, il est toujours là, même si tu fais la grosse vaisselle, il est toujours là, et il veut avoir cette intimité-là. Il veut avoir cette intimité-là dans chaque saison.
Merci. Mais je voulais savoir, au niveau du ministère, comment tu as accueilli cela? Maintenant, tu étais Rachel, mais Rachel, femme de pasteur. Donc, est-ce qu'il y a eu des défis à s'adapter à cela?
Ah, il y a toujours des défis. Je te dirais, c'est... Avant, je rencontre pasteur Denis. J'étais déjà impliquée dans une église, dans les affaires de Dieu. Mais c'était juste Rachel et les amis de l'église. Hein? Rachel, les activités de l'église. Il n'y avait rien d'officiel, quoi. Officiel. Même si c'était officiel, mais ce n'est pas la même chose parce qu'aussitôt que j'ai marié pasteur Denis, il y a, je ne sais pas, c'est la connotation qui vient avec, le poids qui vient avec et les attentes qui viennent avec. Ouh là là, les attentes! Parce qu'aussitôt, je me souviens, à un moment donné, j'avais une amie qui me connaissait avant. Donc, pour moi, c'est toujours mon amie. Je peux me comporter comme Rachel. Je n'ai pas besoin de porter le chapeau de maman pasteur. Mais en tout cas, je me souviens, cette amie-là, à un moment donné, elle a fait une remarque. Et j'étais choquée. J'ai dit, mais voyons donc, c'est Rachel, je n'ai pas changé. Et c'est sûr que ça a été comme eye-opening. Vraiment, là, de voir que même si on me connaissait avant, on me regarde différemment. Et puis, ça m'a remis en doute parce qu'il y avait des choses que je ne me sentais plus libre de faire, libre d'être, libre de m'exprimer. Et ça a été tout un processus de savoir, OK, comment est-ce que dans cet endroit-là, je suis supposée m'exprimer? Mais en même temps, il faut vraiment faire attention dans cette transition parce qu'il ne faut pas que tu te perds. C'est facile que tu te perds et que tu ne te retrouves plus parce qu'en même temps, la Rachel qui est tombée amoureuse, là, il ne faut pas qu'elle soit un petit peu délaissée avec un chapeau tout le temps, mais il faut qu'elle soit elle, et c'est ce processus-là vraiment qui vient et qui est un défi, mais en même temps, tu n'as pas besoin d'être la même chose qu'avant, mais c'est sûr que tu es supposée maturer dans ce rôle-là, mais rester authentique à qui tu es. Tu n'as pas besoin d'être comme telle maman pasteur ou telle autre, mais sois toi, sois vraiment toi, avec le Seigneur, c'est là vraiment que la relation authentique avec ton Jésus là, doit être très primordiale. Parce que c'est lui seul qui sait comment te gérer et puis te montrer quel chemin être.
C'est très bon. Avec la pandémie qui a eu lieu, comment avez-vous pu gérer tout ça ensemble? Et puis, comment tenir, on va dire, la balance au sein d'une famille en 2022?
Ah, la pandémie!
Le mot!
My gosh! Oh, la pandémie! Non, imaginez-vous, hein, on est une famille de 7, hein, 2 parents adultes avec 5 enfants. Donc là, les premiers mois, je te dirais, bon, les écoles n'étaient pas du tout prêtes. Donc, les écoles n'étaient pas prêtes, le travail n'était pas prêt. Donc, c'est sûr que c'était comme les premières semaines, c'était un petit peu comme off, un petit peu, parce qu'il n'y avait pas d'attente. Il n'y avait pas d'attente sur les parents, il n'y avait pas d'attente sur les enfants. Donc, mais il fallait quand même gérer le day-to-day, là, comme les choses quotidiennes de tous les jours, avec tout le monde à la maison, tout était fermé. Donc là, on venait aussi de déménager à Québec. Oui, ça ne faisait même pas comme une année, là, ça fait une année après. Dans une nouvelle ville, très froide, très belle, mais très froide, avec beaucoup, beaucoup de neige. Donc, on a appris à aller dehors très souvent avec les enfants. Il faut aller dehors pour que tu puisses respirer. Mais là, on était dans une petite maison à l'époque. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on pouvait faire à la maison. Donc, on a dû faire, écoute, on a tout essayé là pour les garder
occupés. On a appris à
les petits programmes là. Donc, on allait sur YouTube, on a fait des activités sportives. Donc, chaque matin, ils faisaient du sport. Donc, on a essayé de les encourager. Donc, tu me vois, Pasteur Denis, moi, tout le monde faisait du sport dans le salon. Donc, on les gardait occupés pour qu'ils puissent dépenser cette énergie-là. Puis, entre-temps, on a été bénis dans tout le processus. Hein, tu vois comment le Seigneur est tellement bon. Dans le processus, en plein pandémie, on a reçu vraiment comme une maison familiale qu'on recherchait où chacun pourrait avoir assez d'espace. Donc là, avec cette transition dans une nouvelle maison, ça a été comme answered prayer, vraiment une réponse là qui vient du ciel. Parce que l'année qui suivait, c'est là où tout le monde était devenu très sérieux avec l'école, très bien structurée, chacun avec son Zoom et tout ça. Donc, même avec ça, ça a été quand même un grand défi pour la famille d'avoir 4 enfants. Chez Noah, elle était retournée à Gatineau. On avait les 4 enfants et chaque enfant avec son horaire de travail. Puis moi, je travaillais aussi. Pasteur Denis travaillait. Donc, garder un œil sur les enfants avec des ordis, c'était du travail à temps plein parce qu'il y en a qui pensaient « Oh, c'était le temps de jouer! » Mais non, c'est la classe!
C'est ça!
T'es en classe, t'es supposé garder la caméra ouverte, t'es supposé participer. Donc, on faisait quand même, disons, du matin jusqu'à 15 heures, c'était comme on marchait à travers la maison, j'avais mon ordi, j'avais des petites réunions. Mais je te dirais que des fois, les journées, je ne faisais que regarder les enfants, m'assurer que tous les travaux étaient faits, et puis je travaillais la nuit. Donc, ça a été quand même quelque chose qui nous a stretch, là, physiquement parlant, émotionnellement parlant, puis garder aussi, essayer de garder la routine. Je me souviens, à un moment donné, j'ai dit, écoute, je ne peux pas passer toute la journée, puis il y en a qui montaient pour dire, oh, j'ai faim, oh, j'ai soif, comme il y avait plusieurs mouvements dans la maison. Puis là, par la grâce du Seigneur, j'ai eu une idée qui nous a sauvé la vie. Donc, à chaque matin, même s'ils n'allaient pas à l'école, je préparais leur lunch bag comme s'ils allaient à l'école. Donc là, chacun avec son petit lunch bag le matin, puis ils allaient s'asseoir à côté de son ordi et il allait gérer ça jusqu'au souper. Il y en a qui finissaient ça à 10 heures, là.
Wow.
Tout à 10 heures du matin. J'ai dit, tant pis pour toi. Tu ne vas rien avoir à part de l'eau, là, parce que maman est en réunion. Je ne peux pas te donner à manger tout le temps. Donc, ça a été un lifesaver parce qu'eux, ils ont quand même grandi. Ils ont maturé. Ils ont su comment gérer ça, comme à l'école. Et puis, il n'y avait plus personne qui venait toquer à la porte pour dire, OK, j'ai besoin de boire quelque chose. C'est le temps de manger. Donc, ils ont géré ça. Puis, on a fait un petit... C'était devenu une école vraiment à la maison. Parce que chacun avait son petit horaire. Puis, en même temps... j'imagine comme retourner là à la source à la fin de la journée, t'es tellement épuisée, mais par la grâce, vraiment par la grâce. La pandémie, c'est vraiment par la grâce. Et pour répondre à ta question, balancer une famille en 2022, écoute, je pense que ça dépend. La chose qui est constante dans tout ça, c'est vraiment à entretenir ton intimité avec ton Dieu. Comme ça, c'est primordial. Dans toutes les saisons que tu vas traverser, malgré que ça soit la pandémie ou non la pandémie, comme garder jalousement cette intimité avec ton Dieu. Parce que c'est de là où tout découle. C'est lui qui va te donner les bonnes stratégies, la bonne balance aussi pour chaque famille, comment savoir gérer telle ou telle autre personne, telle ou telle autre activité. Donc, c'est ça.
C'est ça. Et pour tes enfants qui sont nés ici, est-ce qu'ils ont eu la chance d'aller au Burundi, découvrir la culture, voir la famille, voir le pays?
En 2018, on a eu ce privilège d'aller tous en même temps au Burundi.
Wow.
La logistique était très spéciale, mais lorsqu'on s'est rendu là-bas, c'était toute une bénédiction, vraiment. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajustements. Il y en a, c'était la première fois. À part chez Noah. Chez Noah, elle avait déjà fait beaucoup de va-et-vient en Afrique. Elle avait vécu en Afrique aussi pour une année à l'époque, là, en 2005. Donc, elle était très familière avec l'environnement. Mais les 4 autres, c'était la première fois d'abord qu'ils prenaient un avion pour aller en Afrique. en avion tout court, là. Donc, ça a été une expérience. Puis, aller en Afrique, ça a été une expérience d'abord choquante pour nous, parce qu'on a réalisé que c'était la première fois qu'ils voyaient autant de noirs. Vraiment, wow. C'était la première fois qu'ils voyaient autant de noirs et que c'était les blancs qui étaient minoritaires. Donc, le voir dans les yeux d'un enfant, c'est très différent parce que nous, on a grandi là-dedans, on est venu ici, on ne se rend pas compte. Mais ça, c'était une des choses qui les a choqués, comme positivement, parce qu'ils ne voyaient, ils savaient qu'il y avait des noirs, mais comme le voir physiquement, c'était autre chose. Puis l'autre aussi qui les a, qui est vraiment venu, pas les bouleverser, mais les réveiller sur la vie, c'était de voir ma grand-mère, à l'époque, elle était toujours en vie. Elle avait plus de 100 ans à l'époque, en 2018. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle avait, on ne sait pas exactement quel âge elle avait, mais elle avait facilement entre 115 et 120. Donc, la première fois qu'ils ont vu ma grand-mère, donc leur arrière-grand-mère, ils avaient peur d'elle. Et on se demandait pourquoi. Et après, on s'est assis avec eux pour leur demander « Pourquoi vous avez peur de ma grand-mère? Pourquoi? » Puis là, ils ont dit « elle ressemble à une sorcière. » J'ai dit « Pourquoi elle ressemble à une sorcière? » C'était très intéressant. Puis j'ai dit moi qui est maman qui étudie beaucoup ses enfants, j'ai dit pourquoi donc? Puis j'ai dit mais c'est parce qu'elle a des cheveux blancs, puis il y a des dents qui manquent. J'ai dit waouh! Ils n'ont jamais été exposés à des personnes âgées.
Âgées, c'est ça.
Oui, okay. Jamais, jamais. Même s'il y a des personnes âgées officiellement, à l'église ou ailleurs, sont soit teinturés ou bien ils ont la denture. Donc, c'est rare. Les seules personnes qu'ils ont déjà vues avec les cheveux blancs, sans dents, c'est dans les dessins animés.
C'est ça.
Et puis, c'est là que ça a été comme un choc parce qu'ils n'ont pas été exposés aux autres générations dans le vrai sens du mot. Il y a toujours, tu vois, à quel point la culture dans laquelle on vit à l'Occident, il y a toujours, c'est toujours la jeunesse. Oui. Aussitôt qu'il commence à y avoir des rides, oh, il faut enlever ces rides-là. Mais c'est ça, la vie. Et puis, on est en train d'enlever cette réalité-là aux enfants parce qu'il y avait tellement... Ça, c'était au début de notre visite. Oui. Mais à un moment donné... Ils se sont rendus compte, c'est la arrière-grand-mère. Ils ont commencé à s'asseoir avec elle, à lui donner des câlins. Hein. On a des belles photos. Puis tu vois à quel point c'est comme une richesse qui se crée entre générations, de voir à quel point comme il y a cet honneur-là qui vient. Donc là, ça c'était vraiment comme deux révélations. Là. Le fait d'être entouré par un peuple noir pour la première fois, puis le fait d'être entouré par une autre génération très lointaine d'eux, et que pour eux, c'était autre chose, mais vraiment, ça fait partie de ton ADN. Et comment l'honorer? Mais à part ça, en général, je te dirais, dans tous les voyages, ils ont beaucoup aimé la nourriture, les
plages.
Oh oui, la plage, les gazons, toute l'Afrique. Si tu leur demandais, là, où vivrais-tu si tu avais l'option? Plus de 50%, ils diraient là-bas, je te dirais. Là. Il y en a un là qui aime beaucoup le ski, qui aime beaucoup la neige. Lui, il ne sait pas encore, mais le reste, ça irait en Afrique, là.
OK. Super. Oui. C'est bien d'entendre un peu la perspective aussi des enfants parce qu'ils sont différents de nous. Hein? Ils voient les choses différemment. Mais je trouve que comme vous avez fait les amener au pays, c'est très bien. Parce que moi, j'ai été la première fois, j'ai grandi ici, mais je suis retournée en 2015 et je me rappelle quand je suis descendue de l'avion, mes pieds ont touché, comme on va dire, le sol du pays. C'est comme si j'ai senti vraiment que c'était mon pays, de où je venais vraiment. Donc, on voit la différence et c'est toujours beau de retourner voir notre famille.
Ouais.
Donc, je voulais juste pour revenir un peu sur le ministère, comment es-tu impliquée maintenant? Je sais que tu es maman pasteur, mais est-ce que tu es impliquée dans un ministère spécifique? Et qu'est-ce que tu aimerais voir pour les femmes dans les églises ou celles dans le ministère? Qu'est-ce que tu aimerais voir pour elles?
D'abord, comment je suis impliquée maintenant? Je dirais que, bon, dernièrement, avec la pandémie, c'est sûr que ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et il fallait vraiment comme réfléchir et agir en dehors de la boîte, que ce n'est plus vraiment l'église des quatre murs, mais comment garder et maintenir les relations. Donc, en ce moment, je suis beaucoup plus impliquée dans ce sens-là, comme comment créer des petits programmes ou des petits rassemblements sans pour autant qu'on se rencontre dans un building. Parce qu'à un moment donné, comme à Québec, là, on a été confinés pour plusieurs mois. À un moment donné, on est retourné, puis on a été reconfinés encore. Mais je suis heureuse de dire que, bon, à partir de ce dimanche, c'est officiel, on a ouvert les portes, on pourra encore se mettre ensemble. Mais il fallait apprendre à, OK, comment est-ce que garder les connexions, comment ne pas perdre ces âmes-là qui sont en train de naviguer la vie comme toi, sachant que peut-être qu'il y aurait la solution. Si je n'ai pas la solution, il y a quelqu'un d'autre dans la communauté qui a la solution. Donc, ça a été ça vraiment mon implication de créer des petits groupes connexions ici et là, créer des réunions ici et là, pour s'assurer vraiment qu'il y a ce lien qui reste entre les femmes, entre les hommes aussi, entre les enfants. Qu'est-ce que j'aimerais voir avec les femmes dans le ministère? J'aimerais beaucoup voir beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de sortir de la zone de confort. On est tellement confortable, là, lorsqu'on vient dans le Seigneur, il y a comme la petite routine qui s'installe facilement et puis on rentre à la maison. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut pour toi exactement? C'est quoi ta place dans cette église-là? Comme j'aimerais voir l'implication de chaque individu et puis aussi savoir que Dieu t'a déjà équipé. Il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de dire « Oh, moi, je ne suis pas capable de prier comme tel ». Mais ta façon de prier est aussi unique et aussi puissante comme telle autre. Parce que tu ne sais jamais vraiment c'est quelle âme qui va venir, qui sera beaucoup plus attachée ou bien qui pourrait parler de cette manière-là par rapport à quelqu'un qui va peut-être aller devant, qui serait beaucoup plus vocal. Mais ta façon de prier qui est beaucoup plus calme ou bien même juste mettre de la musique là, pour être dans sa présence, on ne sait jamais. Donc, Dieu t'a déjà équipé si tu es toujours là en vie, femme, là où tu es. Dieu t'a déjà équipé à faire de l'impact non seulement dans ta famille, mais aussi en dehors, sans pour autant que tu changes. Tu n'as pas besoin de changer, viens tel que tu es. Il est capable de te prendre là et puis de t'inspirer. S'il y a des changements à faire, il va t'inspirer, il va t'équiper à faire ces changements-là. Tu n'as pas besoin de... Parce que des fois, on est comme forcé à faire des choses qui sont en dehors. S'il faut que tu fasses ces choses-là, tu vas le faire avec lui, mais dans la paix. Dans la paix, oui, tu peux te sentir comme dans la tension, mais si tu le sais en dedans de toi que ça fait partie de la volonté de Dieu et que tu marches avec lui, tout est possible vraiment. C'est vraiment de voir des femmes qui sortent de leur petite boîte, d'intimider leur petite boîte d'insécurité, beaucoup, beaucoup d'insécurité, là, avec tout ce qui se passe dans la culture, mais sortir de ces boîtes-là pour devenir ce que Dieu vous a appelé à être.
En parlant de sortir, voici, on parle de ton projet. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer Rachel's Sweet Inspiration? Qu'est-ce qui t'a poussé?
Sortir de la boîte, hein? Ouais, oui. Talk about sortir de la boîte. Ouais. Ça, c'est comme sortir de la boîte pour Rachel. Hein?
Oui.
Parce que là, écoute, pour moi, les derniers mois, comme pour être vraiment authentique, les derniers mois ont été comme rock and roll. Mm-hmm. Parce que j'ai été défiée dans les choses de base. Tu vois, les choses que tu prends pour acquis. Mm-hmm. Pas pour acquis, mais les choses de base, là, comme avoir un travail qui est soi-disant sécuritaire ou tu sais que lorsque tu as eu ce travail, c'est pour la vie.
Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai.
Ou bien tu pensais que c'était pour la vie, parce que c'est comme ça que c'est présenté, c'est pour la vie. Mm-hmm. Jusqu'à ce que ça soit vraiment défié, et tu sais que tu vas perdre ce travail-là. Mm-hmm. Et je me souviens, ce qui a vraiment poussé Rachel à sortir de la boîte, c'était lorsque j'avais ma petite cocotte, là, la plus jeune. Elle avait un concert de cheerleading. Mm-hmm. Et puis, elle avait passé tous les mois, vraiment, de septembre jusqu'en décembre. Là, ils avaient comme un petit concert de quelques minutes à l'école. Et puis, on avait noté ça sur le calendrier. J'étais supposée y aller. Mais parce que je traversais ce que je traversais, mm-hmm. Qui était vraiment venu me chercher, vraiment, là, comme dans le sens... C'est qui ta source? Est-ce que c'est ça ta source ou c'est moi ta source? Mm-hmm. Est-ce que ton identité est là ou bien ton identité est en moi? Mm-hmm. Et puis, je me souviens, dans tout ce de brouhaha là, émotionnel, il fallait que je quitte, mais j'avais complètement oublié parce que là, j'essayais de fermer des dossiers pour un travail qui allait me mettre dehors. Mm-hmm. Okay. Et puis là... mais j'étais comme tiraillée et puis il fallait que je fasse quelque chose là. Mais en essayant de fermer ces dossiers-là, parce que j'avais pris cet engagement-là, j'ai oublié l'autre engagement qui était primordial, vraiment là. Mm-hmm. Puis là, 4h30, en plus 4h30 ici, c'était comme soir, je réalise, j'étais en train de finir mes dossiers, je réalise qu'il est 4h30. Et que le concert commence à 4h. Donc là, je me mets debout. Oui. J'étais comme frantic. Vraiment, là.
Oui.
Je prends le téléphone, j'appelle Pasteur Denis qui était en haut. Moi, j'étais en bas. J'ai dit, le concert de Mathéa commence. J'ai dit, quoi? J'ai dit, oui, il commence.
Oui. Oh, mon Dieu.
Comme, mon cœur était en train de battre, là. Mm-hmm. Il me dit, vas-y quand même. Donc là, bon, l'école n'est pas loin. J'ai pris mes bottes, c'est l'hiver. J'ai pris mes bottes, ma jaquette, capuche, tout ça. Je vais dans la voiture, je cours, j'arrive là-bas comme à 40. Donc là, je cours dans les couloirs, je rencontre la responsable des services de garde qui était là, qui est comme celle qui s'occupe du groupe de Mathéa. Mm-hmm. Puis là, je lui dis, je suis ici pour le concert, c'est où? Elle me dit, c'est dans le gymnase. Mm-hmm. Et puis, je lui demande, est-ce que ça a commencé? Puis là, tu vois la maman là, qui arrive, là, c'est même pas comme la jaquette n'est même pas fermée. Puis là, elle me dit, c'est fini.
Oh! Oh, mon Dieu!
Non, comme pour moi, là, c'était... Écoute, la madame qui s'occupe de son équipe, elle est toute petite mm-hmm. comme ça, là. Mm-hmm, mm-hmm. Mais j'étais tellement comme foudroyée que j'ai mis ma tête sur son épaule parce que c'était comme, on m'a mis comme un whole iceberg comme pour moi, vraiment. Mm-hmm, là. Mm-hmm, mm-hmm. Puis là, je suis partie vers le gymnase. Il y avait la femme qui faisait, celle qui faisait vraiment le cheerleading. Elle accompagnait Mathéa pour sortir. Mm-hmm. Puis là, je l'ai vue sortir. Elle était déjà habillée. Elle dit, t'es pas venue. J'ai dit, je sais.
Wow. Oh mon Dieu.
Non, comme là, comme je l'ai pris, mais tu vois, les enfants, ça oublie vite.
Oui, oui,
tu
vois, oui.
Et comment ça s'est passé, puis elle commence à me dire comment ça s'est passé. Puis là, mais là, la condamnation dans mm-hmm. le cœur de maman est comme immense.
Oui.
Immense, là. Je te dis, il n'y a même pas de mots. Je prends la voiture, je continue de lui parler, mais en dedans de moi, là, c'est comme ça bouillonne. Mm-hmm, mm-hmm. Puis on rentre à la maison, mais tout se passe bien à la maison. On sait que maman a manqué, la vie continue pour les autres.
Oui.
Mais là, comme pour moi, ça a été un deal breaker. J'ai dit, je peux pas.
Oui.
Je peux pas continuer comme ça. Je sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Tu vas pouvoir autrement. Je ne sais pas comment. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches. J'avais déjà fait des recherches avant. Mm-hmm. Avant, quelque part en octobre, là, j'étais un petit peu connectée avec un petit groupe. Puis là, j'ai dit, Seigneur, OK, on va finir avec ce travail-là parce que ça fait pas de sens que je me donne autant à quelqu'un dans cette situation-là alors qu'il y a quelqu'un d'autre, la famille mm-hmm. proche, qui a besoin de moi. Mm-hmm. On peut pas continuer comme ça. Donc là, j'ai commencé à explorer d'autres choses. je suis revenue à certaines choses que le Seigneur m'avait ouvert les yeux là-dessus, là. Puis j'ai encore toqué la porte là-bas, puis j'ai parlé avec certaines personnes, j'ai dit, OK, bon, si c'est ça que tu veux, Seigneur, c'est ça. On va plonger dedans, on va faire ce leap of faith, on va y aller, on va créer ce Rachel's Sweet Inspirations, on va inspirer toute une génération de femmes et d'hommes et de je ne sais pas qui veulent comme ne plus vivre comme ça, vraiment du train, comme du jour au lendemain, le train-train de tous les jours, là où tu oublies les choses de base. Et puis, c'est des choses qui sont importantes, vraiment. C'est comme tu dois payer les factures, tu as le travail. C'est comme les choses qu'on nous apprend que c'est comme primordial, mais primordial au point où tu oublies les choses qui sont vraiment à la base, des choses de base, là. Parce que demain, the legacy que tu veux laisser derrière, c'est pas your paycheck much. C'est pas ça qu'ils vont se souvenir de ça, mais c'est vraiment le temps que tu as passé avec eux, les petits souvenirs ici et là. Mais est-ce que la vie que tu es en train de mettre aujourd'hui, c'est ça? Mais c'est sûr que, bon, huge leap of faith, comme incroyable. Tu commences quelque chose from scratch, avec un système. Là, bon, tout est vraiment dans le site, mais ça donne une idée où tu prends un leap of faith, comme pour Rachel's Inspiration, c'est vraiment going back to the roots, comme vraiment. Retour à la ressource, retour à qui tu es, retour à ce que tu as toujours voulu donner au monde et laisser derrière comme legacy, vraiment. Okay. Donc, c'est ça, Rachel's Sweet Inspiration, c'est autour de ça.
OK. Donc, je voulais savoir, quelle est la vision que tu as pour cette page et pour ton site Internet? J'ai vu aussi que tu as un site Internet maintenant. Donc, quelle est la vision? Qu'est-ce que tu vois à long terme?
À long terme, je te dirais, c'est vraiment cet outil-là, c'est comme un conduit que j'aimerais que Dieu utilise pour libérer des vies à la fin de la journée. Libérer des vies, puis faire un retour aux choses de base, comme aimer ton prochain, aider ton prochain, être là pour ton prochain, parce qu'on est... avant que je commence justement Rachel's Inspiration et puis tout ce qui est comme j'étais dans le train-train de tous les jours, j'allais à l'église les dimanches et tu vois qu'il y a des besoins. Tu vois quelqu'un qui est en besoin, mais tu le rencontres vite le dimanche et puis c'est l'autre dimanche que tu vas le revoir parce que dans la semaine, t'es comme bourré de choses, t'as pas le temps. Et par le temps que tu as le temps, tu es déjà crevé, il n'y a plus d'énergie. Donc là, c'est venu encore me chercher. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas investir toute ma vie à faire les transactions alors qu'il y a des vies qui sont en train de... qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin d'être secourues, mais que je n'ai pas le temps. Parce que lorsque je vais me mettre devant toi, Seigneur, je ne vais pas dire, « Oh, j'ai été dans beaucoup de transactions, Seigneur, excuse-moi. » Je veux pas ça. Je veux vraiment mettre tout à côté et puis focusser vraiment sur ce qui est important, ce qui est primordial, parce que je vais devoir me mettre devant Jésus. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et pourtant, il m'avait montré telle personne a besoin de toi, telle autre personne a besoin d'elle. Tu peux ne pas être la personne qui va l'aider, mais peut-être que tu vas la diriger vers l'aide. Mais tu étais tellement occupée que tu l'as pas fait et pourtant, je t'ai parlé. Et c'est ça qui arrive souvent. On a tellement des petits... Dieu parle tellement dans les petits whispers, comme des petites voix là, qui viennent te dire des choses et des transactions. Mais si on est tellement dans les activités, dans la routine, il y a tellement de bruit qu'on peut manquer la voix de Dieu. C'est ça. Donc, je pense que c'est Rachel's Sweet Inspiration, c'est comme retour à la base. Est-ce qu'on peut juste s'asseoir, poser, respirer et rediriger un peu notre vie sur un chemin qui fait du sens. Si ça va prendre Rachel's Sweet Inspiration et puis tout ce qui est derrière le mécanisme et le système pour vraiment ramener les choses à la vie, j'ai dit, écoute, je suis partante pour réajuster les priorités.
Merci. Aurais-tu un dernier mot pour encourager les femmes?
Un mot.
Bon, une phrase. Bon, quelques mots.
Écoute, je pense que la seule chose, ça serait vraiment que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour retourner à la sauce parce qu'on peut te dire « Ah, ça, comme je peux pas, oui, tu peux. Mm-hmm. » Si tu as toujours un souffle dans ta vie, là, si tu t'es réveillé ce matin, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi et que sûrement que ce qu'il a, il t'a créé pour être et pour faire, tu ne l'as pas encore fini. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir au petit rêve que tu as mis à côté. Il n'est jamais trop tard pour aller dire pardon. Il n'est jamais trop tard pour aller aider quelqu'un. Il n'est jamais trop tard là pour dire à quelqu'un « je t'aime ». Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu t'es réveillé ce matin, c'est qu'il n'est jamais trop tard et que tu as toujours... Et tu es équipé. Mm-hmm. Tu es déjà équipé à faire tout ce que tu es supposé faire. C'est tout.
Dernière chose, que pouvons-nous te souhaiter pour ton projet? Comme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton projet que tu es en train de faire?
Le souhait. Que ça devienne tout ce que Jésus l'a créé pour être. Comme vraiment que le potentiel qui est en dedans, même si c'est toujours sous forme de petites graines, ça puisse prendre toutes ses formes en son temps. Et qu'en tout et partout, là, on puisse avoir des folles. Parce que des fois, ça peut être comme lourd et puis te dire, oh, ça va être lent, mais comme dans le processus, dans chaque petite phase, d'avoir du fun dedans, puis de comme le vivre pleinement chaque saison. Parce qu'on ne sait pas ce que demain va ramener, mais comme aujourd'hui, là, ça puisse être, à chaque jour, ça puisse être une bénédiction. T'es comme, OK, Seigneur, qu'est-ce quoi d'autre que j'ai à faire aujourd'hui? Et puis de le vivre pleinement.
Merci beaucoup, Rachel. Ton témoignage m'a vraiment touchée. Ton projet aussi, là, je vois la page Facebook et tout. Donc, on va linker tout ça. Donc, les auditeurs pourront aller faire un tour. Donc, merci encore d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a bien jasé, on a bien ri aussi.
Ben oui, ça a été du fun.
Merci d'être passé au bruit de ma ville.
Merci beaucoup, Suella. Sois bénie.
Sois bénie.